Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjona Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean Frédérics.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Premier jour de notre série consacrée à l'économie de l'alimentation. Depuis les années 60, la part du budget consacré à l'alimentation a considérablement diminué en France. Et cela, même si on remarque depuis quelques années un léger inversement de tendance. La crise de la vache folle et les controverses autour des méfaits de la viande et du lait ont incité les consommateurs à se tourner davantage vers les produits bio et végétariens et vers les circuits courts. S'il est vrai que la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent, comme l'écrivait Jean-Anthelme Brillat-Savarin dans La physiologie du goût en 1825, examinons sans plus tarder les nouveaux modes de consommation en France et leurs effets sur l'industrie agroalimentaire. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue à la table d'Entendez-vous l'écho. Et pour discuter du contenu de nos assiettes, nous accueillons aujourd'hui Pascale Hébel, directrice du pôle consommation et entreprise au CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Avec nous également Camille Harel, journaliste, chef de rubrique du pôle alimentaire à Libre Service Actualité, un magazine hebdomadaire consacré à l'actualité de la grande distribution et de la consommation. En fin d'émission, on retrouvera Arjona Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Pascale Hébel et Camille Harel, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors commençons, si vous le voulez bien, par dire un mot du budget que l'on consacre à l'alimentation. C'est un budget qui n'a cessé de diminuer depuis les années 60. Comment l'explique-t-on, Pascale Hébel ?
Alors en effet, le budget était de l'ordre de 35% dans les années 60. Aujourd'hui, c'est que 13%. Ça s'explique tout simplement parce qu'il y a des façons de consommer qui ont pris le dessus. Dans tous les pays où le pouvoir d'achat a augmenté, c'est quand même le cas entre 1960 et aujourd'hui, on va consacrer de plus en plus d'argent aux loisirs, mais aussi au logement, parce que les prix du logement ont beaucoup augmenté. Et finalement, dans les pays les plus aisés, le poids de l'alimentation est plus faible. C'est la même chose entre les différentes populations. Les catégories des populations les plus modestes ont un poids d'alimentation beaucoup plus élevé que les plus riches.
Et à quel moment est-ce que vous diriez, Pascale Hébel, que l'alimentation est devenue véritablement un sujet de société ? Ce n'était pas le cas de la même façon dans les années 60.
Alors il y a vraiment eu un basculement au début des années 2000, puisqu'en effet ce sujet est devenu un sujet d'inquiétude à la suite de la première crise de la vache folle de 96. Et finalement, toute la société s'est emparée de ce sujet, à la fois parce que ça inquiétait et à la fois parce que c'est finalement un thème sur lequel on a plus de prise, à la fois en termes écologiques ou en termes de santé, qui sont des nouveaux sujets, des nouvelles valeurs qui arrivent. On a l'impression qu'on peut changer des choses, donc pour l'impact écologique ou pour sa propre santé. Et donc c'est vraiment un sujet dont on parle dans les médias. Avant 2000, c'était pas du tout le cas. On en parlait essentiellement en termes de grande cuisine, de gastronomie, du guide Michelin, mais pas du tout en termes de sujet de société.
L'alimentation du quotidien est devenue un sujet de société dans les années 2000. Vous partagez cette analyse, Camille Harel ?
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on a vu, malheureusement, depuis les dernières années, deux crises qui ont touché l'industrie alimentaire, avec la crise du Horsegate de la viande de cheval sur une tromperie de matières premières, et en janvier 2018 la crise sanitaire Lactalis. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même si heureusement au XXIe siècle ces crises alimentaires restent rares, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur un modèle de traçabilité très complet et de produits qualitatifs, dans l'esprit du consommateur, avec ces crises-là, c'est je mets un produit dans mon caddie, je veux qu'il soit sûr au niveau qualitatif et que la traçabilité soit bonne. Donc maintenant, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont omniprésents dans l'esprit du consommateur.
Et cette montée de l'inquiétude, on la voit bien dans vos enquêtes, Pascale Hébel. En 1995, 53 des personnes interrogées déclaraient que manger comportait un risque important ou très important. Et ils sont 74% aujourd'hui.
Oui, on est vraiment aux trois quarts et ça augmente toujours, puisqu'il y a eu en effet des crises, Lactalis, on a des crises presque tous les jours. C'est des sujets qui sont finalement plus repris. Et puis, on on a un contexte où on va avoir beaucoup plus de documentaires, là on appelle ça à charge, hein, qui vont prendre un angle de la chaîne de production et qui vont plutôt être très très critiques. Il y a des nouvelles formes de des médias et de journalisme qui sont beaucoup moins en essayant de peser le pour et le contre. Et donc ça entretient ce schéma d'inquiétude. Les Français ont peur, et ceux qui sont les plus inquiets par rapport à ce qu'ils mangent, contrairement à d'autres sujets comme les accidents de la route, où souvent ce sont les plus fragiles qui ont peur des accidents de la route, ici ce sont les plus éduqués. C'est-à-dire que ce sujet-là fait peur à ceux qui finalement ont globalement tous les moyens pour comprendre que non, en effet on mange de mieux en mieux, hein. On sait bien que la qualité sanitaire des aliments s'est beaucoup améliorée au cours du temps, hein. On avait 100 000 cas de mortalité au début du XXe siècle, hein. On avait des salmonelloses, des listérioses, c'était en gros des intoxications alimentaires qui tuaient des gens. Aujourd'hui, on a maximum 100 cas par an.
C'est important ce que vous dites, la peur augmente et en même temps les risques n'ont jamais été aussi faibles.
Les risques n'ont jamais été aussi faibles et en effet, on n'a jamais eu dans nos assiettes d'aliments aussi fiables en termes de qualité sanitaire, d'intoxication. C'est-à-dire qu'on a quand même, on meurt de moins en moins d'infections. Les causes de mortalité liées à des infections au global sont en baisse. L'hygiène est de mieux en mieux. Et finalement, c'est les gens qui, on voit même que c'est peut-être même ceux qui ont fait des études, le plus d'études scientifiques, qui vont émettre des doutes sur tout un tas de choses. Et donc ce sujet-là fascine et cristallise beaucoup de choses.
Alors il y a effectivement les scandales sanitaires, mais il y a aussi les effets de certains aliments sur la santé. Alors ce sont des sujets de controverses récurrents. Et la revue médicale The Lancet a publié une étude le mois dernier selon laquelle la surconsommation de sel, de sucre ou de viande, ainsi que des apports insuffisants en céréales complètes et en fruits, seraient à l'origine de la mort de 11 millions de personnes par an dans le monde. Enfin, c'était le cas du moins en 2017. Qu'est-ce que ce résultat vous inspire, Camille Harel?
Après, évidemment, il faut faire attention à certaines consommations. Le sel, on sait très bien que c'est pas bon pour la santé. Une trop forte consommation de sel, idem pour le sucre, idem pour le gras. Après, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont quand même assez présentes en France avec le PNNS depuis le début des années 2000.
Le PNNS ?
Plan national pour la nutrition santé, pardon. Donc du coup, oui, aujourd'hui, clairement, dans l'esprit de chaque consommateur, je pense que tout le monde sait qu'une consommation excessive de tel ou tel ingrédient est nuisible pour la santé. Après, évidemment, les céréales, il y a plein de bienfaits qu'il faut continuer à consommer au quotidien.
Mais en même temps, c'est l'objet d'un certain nombre de controverses. Pascal Hébel, par exemple, vous parliez tout à l'heure des documentaires à charge réalisés par des journalistes. Il y avait cette idée que le lait de vache ne serait pas si bon pour la santé, ou du moins qu'il ne faudrait pas autant le recommander.
Oui, tout à fait. Il y a tout un tas de nouvelles peurs qui arrivent, mais aussi il y a vraiment un changement profond de préoccupation par rapport à la santé qui nous arrive un peu du nord de l'Europe, et chaque individu veut prendre en main sa santé. Donc notamment les très très jeunes sont beaucoup plus recherchent beaucoup plus finalement toutes ces informations. Donc l'étude Lancet dit qu'en effet un quart de la mortalité mondiale provient des maladies nutritionnelles. Il faut juste noter quand même que les Français, on est les troisièmes en termes, on est les meilleurs, hein. Donc les premiers c'est les Japonais, les Espagnols en deuxième, et donc en France on fait partie de ceux qui avons le moins de mortalité liée aux maladies nutritionnelles. Donc il y a des nouvelles découvertes, ça c'est certain, notamment sur des liens sur les cancers, puisque la première cause de mortalité en France étant en effet les cancers depuis peu, devant les maladies cardiovasculaires. On va se préoccuper de ces maladies qui arrivent en long terme, qui ne sont pas pour tout de suite, et c'est ces sujets-là qui vont finalement faire arriver des recherches de produits plus sains, hein, c'est le terme qui est aujourd'hui utilisé dans le langage des consommateurs, et qui va être poussé par une certaine offre, on en parlera tout à l'heure. En ce qui concerne ces sujets qui sont plutôt sur des évictions, ça vient plutôt de courants philosophiques. Donc on va chercher finalement dans la relation de l'homme à la nature, qu'est-ce qui va être bon pour l'homme, et puis se poser toutes ces questions, et qu'est-ce qu'on mangeait à l'ère de la préhistoire, qu'est-ce qu'on a finalement industrialisé, est-ce qu'on a changé de régime alimentaire. Donc cette idée que peut-être que le lait des mammifères, on est la seule espèce à le consommer.
Ça participe d'un mouvement de retour à la nature.
Ça fait partie, voilà, d'un mouvement de retour à la nature. On l'a vu aux élections hier, et aussi à l'animalisme, hein, qui est un courant qui nous vient des cultures protestantes, où il faut se poser cette question de est-ce qu'on n'exploite pas trop l'animal. Ça, c'est très très récent. Et en effet, c'est des nouvelles questions qui arrivent.
Et la conséquence de cela, c'est que les représentations d'un aliment de qualité ont fortement évolué depuis les années 2000. La qualité n'est plus associée, est associée désormais au bio, alors qu'elle était autrefois davantage associée au goût, Pascal Hébert.
Oui, c'est vraiment ça qu'on voit dans l'histoire, c'est que notre culture alimentaire est très forte. Hein, en fait, on est très attaché à ce geste de manger pour manger avec les autres. Hein. On continue à être 60% de Français à être à table ensemble à 12h30, même si les modes de vie ont beaucoup évolué. Et finalement, on a été jusque dans les années 2000 à considérer que bien manger, c'était avant tout associé au goût, au plaisir, au partage. Et puis, avec ces peurs, on voit petit à petit des changements et la qualité. Donc, ce qu'on est prêt à payer plus cher pour un produit, avant, c'était du goût. Donc, on faisait la différence en essayant le produit. Et puis, petit à petit, ça glisse vers l'aspect. Hein, c'est le produit est joli. Et puis, 2015, le premier mot qui est cité, c'est le bio. C'est-à-dire qu'on a eu des montées d'inquiétude. Les pesticides, on n'en parlait pas il y a 20 ans. Et puis, c'est monté petit à petit. C'est devenu la première peur. Et aujourd'hui, c'est plus celle-là. Ça a été remplacé par une autre. Mais finalement, il n'y avait qu'une réponse pour assurer dans cette offre, cette cacophonie nutritionnelle. Il n'y a qu'une chose qui sert à assurer le consommateur, c'est en effet ce bio qui, dans l'imaginaire, alors plus français qu'en Allemagne par exemple, le bio c'est associé à naturel. C'est forcément un produit qui nous vient de cette bonne nature.
Qui c'est a priori un terme qui devient un peu fourre-tout, c'est cela ?
Oui, c'est vraiment un mythe, hein, c'est-à-dire qu'on associe au bio et on l'a regardé beaucoup de choses, c'est meilleur au goût, on considère que c'est meilleur pour la santé, on considère que c'est meilleur pour la redistribution, donc tout est associé à ce terme-là, cette agriculture biologique, et évidemment on voit bien que les marchés continuent à faire des croissances à plus de deux chiffres. Et il y a juste une chose qui s'est passée entre 2015 et aujourd'hui, c'est que l'offre, et notamment c'est quand même la distribution, a poussé autre chose que le bio, a poussé le sans, S-A-N-S, hein, c'est-à-dire sans pesticides, puisque la première peur c'était ça, et comme les peurs ont glissé vers colorants, additifs et tout chimie de synthèse, eh bien c'est le sans colorants, sans additifs. Et donc peut-être que le bio est en termes d'imaginaire est balayé par d'autres choses qui font une promesse dans l'assiette. Hein, le bio n'est qu'une promesse de moyens, c'est une façon de faire de l'agriculture, et du sans résidus de pesticides, c'est une promesse dans l'assiette.
Alors il y a le bio et il y a ce que vous appelez le marché de l'exclusion, donc le sans pesticides et sans tout un certain nombre de produits jugés indésirables. Mais alors ce qu'on constate, c'est que face à ce lien entre santé et alimentation, l'industrie agroalimentaire a cherché à surfer sur cette vague des aliments santé en vantant les bienfaits de tel ou tel produit pour l'organisme. Mais c'est des pratiques qui ont été finalement interdites par l'Union européenne. Camille Harel, cette idée que tel produit va renforcer les défenses immunitaires, par exemple.
Alors là, en effet, c'est un autre sujet, ça concerne les allégations santé. C'est vrai que Danone a pas mal surfé sur ce concept il y a quelques années en proposant des produits qui, en effet, avaient des propriétés plus ou moins, sur plus ou moins d'aspects nutritionnels, etc. Aujourd'hui, il y a en effet cet organisme européen qui est beaucoup plus strict, etc. Donc, on ne peut plus vanter ces allégations-là, ou alors du moins, il faut vraiment les prouver. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de... En effet, aujourd'hui, le consommateur, il est complètement sorti de ça. On n'est plus du tout sur ces produits-là, qui en plus, dans l'esprit du consommateur, ce sont des produits qui sont très industrialisés, alors qu'aujourd'hui, on est en effet sur des produits qui ont besoin d'être sur des retours au terroir, à l'authenticité, à la terre, aux producteurs, etc. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus soit d'industriels, soit de réseaux de distribution qui mettent en avant vraiment ce lien de proximité avec le producteur. On connaît même quelquefois des marques où il y a le nom du producteur, l'adresse de sa ferme, pour que le consommateur ait vraiment l'impression d'avoir ce lien privilégié avec la personne qui lui fournit son alimentation. Parce qu'aujourd'hui, clairement, dans un caddie de supermarché, le consommateur qui met un produit dedans, c'est plus uniquement pour se nourrir, c'est un acte de consommateur, entre guillemets. Et derrière ce produit, il y a une démarche citoyenne, une démarche environnementale, etc., tant sur l'amont agricole que sur l'écologie, etc.
Vous parliez tout à l'heure de mythes, Pascal Hébel, c'est lié à des représentations, en effet, qu'on peut avoir de tel ou tel produit. Ce qu'on constate, par exemple, c'est que de plus en plus de gens excluent de leur alimentation le lait, on l'a dit, mais aussi le gluten pour des questions de santé. Et pourtant, dans les faits, les allergies à ces produits sont relativement rares. Alors comment expliquer cette différence entre l'augmentation du rejet du gluten par exemple et la réalité médicale?
Alors c'est vrai qu'il y a, eu un petit peu une concentration sur tous les maux qui concernent l'intestin, le ventre et finalement, alors ça concerne plutôt la population féminine qui ressentant des choses, on a un peu plus les moyens financiers de se préoccuper de ce genre de maux qui auparavant étaient complètement effacés, on n'en parlait pas. Et finalement, on a trouvé des façons d'expliquer ces problèmes-là en parlant, par exemple, du gluten, mais aussi du lactose. Et donc, les gens essayent ces régimes-là. En effet, sur le gluten, la maladie de cœliaque est une maladie très, très grave qui tue. On peut absolument pas consommer de gluten, ne concerne que 0,6% de la population française. On sait qu'il y a peut-être quelques allergies, mais ça n'a pas été démontré. Il n'y a pas de consensus pour savoir si ça va au-delà de ce 0,6%. Mais toujours est-il que, évidemment, c'est un petit peu de l'ordre de ce qui peut être essayé et on a l'impression que ça marche. On va essayer ces nouveautés parce qu'on en parle. Et c'est
on vrai applique que là, le principe de précaution.
Voilà, par rumeur, mais c'est sans doute aussi parce qu'il y a une offre, qui s'est beaucoup développée sur le sans gluten. Et donc, les gens vont essayer. Le sans lactose, c'est la même chose. Là, sur le lait, on sait qu'il y a plus de personnes qui ne supportent pas, qui ne digèrent pas le lactose, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que des gens qui n'auraient pas besoin de ne pas en consommer essayent. Et ce qu'il y a, c'est que ces enzymes-là, notamment pour le lactose, si on arrête de boire du lait, on ne fabrique plus les enzymes qui permettent de le digérer pour ceux qui le digéraient bien. Donc après, on ne peut plus en consommer.
Donc ça peut provoquer des problèmes de santé, alors même qu'on essayait de lutter contre.
Il n'y a plus de marche arrière. On ne peut plus revenir en arrière. Donc on limite en fait la diversité des aliments qu'on peut consommer. Et c'est sans doute ça qui est le principal problème, c'est qu'on est sur une alimentation en France qui est la plus diversifiée, qui est très très diversifiée par rapport aux autres cultures, tout simplement parce qu'on a une diversité de paysages, une diversité d'agriculture, on est en termes climatiques, on a les conditions favorables pour depuis toujours avoir consommé beaucoup plus d'aliments différents. Et finalement, toutes ces peurs qui se traduisent par ces essais-là, je vais essayer de manger moins de lait, manger moins de gluten, vont faire qu'il y a, alors en plus, il y a d'autres effets qui vont dans le sens, qu'on a des enfants qui aujourd'hui mangent de moins en moins diversifiés, au sens où ils vont manger moins de fruits, moins de légumes, moins de produits laitiers, etc.
Et donc des impacts négatifs qu'on peut déceler. Alors parmi les grandes transformations de ces dernières années dans notre alimentation, il y a évidemment la baisse de la consommation de viande. Mais alors, qu'est-ce qui diminue plus précisément, Camille Harel? Est-ce que c'est par exemple la viande de boucherie ou est-ce que c'est plus les produits transformés qui contiennent de la viande?
Alors, il y a un double effet. Déjà, c'est sûr que à l'heure actuelle, on parle de flexitarisme. Donc, c'est le fait de diminuer sa consommation de produits de viande, donc tant de la viande brute que de la viande dans des plats cuisinés. Et après, il y a en effet la volonté de certaines personnes d'avoir des régimes alimentaires très stricts, type végétarien, type vegan. Bon, ça, c'est par contre on en parle beaucoup, parce que les réseaux sociaux, Internet, etc., parlent énormément de ces sujets-là. Faut quand même pas oublier que c'est vraiment un pourcentage minime de la population française.
Oui, le secteur de la viande reste la première industrie agroalimentaire française. Il réalise, je crois, un quart du chiffre d'affaires totale de l'agro-industrie.
Oui, c'est clairement, il y a beaucoup de consommateurs continuent à manger de la viande. Et on parle beaucoup de flexitarisme, ça veut juste dire baisser sa consommation de viande. Ça veut pas dire la stopper net. Donc, clairement, il faut faire attention là-dessus. Mais c'est vrai que cette tendance de déconsommation de viande, elle est également liée à toute cette idéologie autour de l'environnement, du fait que le bétail des troupeaux émettent beaucoup de CO2, donc pour des gens qui sont très sensibles à l'environnement, ça peut rentrer aussi en ligne de compte, etc. Mais il faut pas faire de ça une généralité.
Et alors face à cela, est-ce que ça commence à se ressentir, si je puis dire, par l'industrie de la viande en France, parce que je lisais que les marges des industriels de la viande seraient moins importantes que celles des autres secteurs agroalimentaires. C'est vrai ça, Pascal Hébel?
Oui, alors c'est un secteur qui en effet a continué à avoir des prix très élevés, alors que dans d'autres secteurs alimentaires, les prix ont beaucoup baissé. Donc surtout si on parle de la viande rouge, par rapport à la viande de volaille par exemple. Les prix ont beaucoup augmenté à partir de 2007-2008 sur l'alimentation, et le seul produit qui n'a pas changé un peu sa courbe était la viande. Comme aujourd'hui les volumes baissent, on a mesuré qu'en 10 ans on consommait chez les adultes 12% de moins de produits carnés, tout compris, y compris les burgers et toutes les viandes qui sont intégrées dans des plats composés. Donc nécessairement, pour continuer à vendre, ils sont obligés de baisser un peu les prix, et donc les marges en effet sont en train de diminuer.
Puis il y a aussi beaucoup de main d'œuvre, ça nécessite particulièrement beaucoup de salariés, parce qu'elle est belle.
Oui, donc c'est vraiment, alors ça c'est vraiment un des sujets, mais qui est assez fort aussi dans tous les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, c'est que on a des tensions sur les marchés de main d'œuvre en fait. Hein. C'est-à-dire que tous ces secteurs là où on a besoin de main d'œuvre physique, on n'a pas encore automatisé. Il y a beaucoup de choses qui sont pas automatisées. Donc dans les abattoirs, on n'arrive pas du tout à trouver de personnel pour ces métiers là. Et puis des bouchers, on en manque beaucoup de façon drastique. Donc en effet, il y a des coûts importants parce que c'est une matière qui a besoin de beaucoup plus de règles sanitaires, qui a besoin d'être transformée, on est obligé de la couper, et donc qui engendre beaucoup sur le cycle économique, beaucoup de frais, et donc en effet une marge qui diminue.
Alors il y a les produits bruts et les produits transformés, voire ultra transformés, et ce que l'on constate, c'est que les différentes catégories sociales ne consomment pas les mêmes produits.
Alors les anthropologues nous ont appris que les modèles alimentaires, ils préexistent à l'individu. L'individu débarque dedans et il choisit pas tout. Une sociologie classique, je vais dire une sociologie de la distinction, une sociologie, mais même somme toute rudimentaire, avec 3-4 variables très simples. Le sexe, l'âge, la position hiérarchique dans la société, arrive à produire des choses très intéressantes. Mange pas du tout de la même façon en haut de l'échelle sociale, en bas de l'échelle sociale. Assez banal. Et on voit ici des mécanismes de surdétermination sociale.
Jean-Pierre Poulain, l'un des pionniers de la sociologie de l'alimentation, le milieu social auquel on appartient, Camille Harel, continue à déterminer notre régime alimentaire.
Malheureusement, aujourd'hui, pour bien manger, il faut un pouvoir d'achat conséquent. On parlait de tous ces produits, soit bio, soit labellisés, soit des viandes label rouge, etc. Tout ça, ça a un prix, même si aujourd'hui, de manière générale, tout ce qui concerne les produits premiers prix, etc., on voit que de manière structurelle, ça a tendance à baisser, parce que les Français font quand même attention un minimum à ce qu'ils mettent dans leur caddie. Mais clairement, il y a un rapport au pouvoir d'achat, il y a également un rapport... on consomme pas du tout pareil dans les grandes villes qu'en province. Moi, je vois surtout sur le bio, on a l'impression dans les grandes villes que c'est la majorité de la consommation des personnes. En fait, c'est pas forcément représentatif sur la population française. Il y a en effet pour toutes les catégories sociales.
Et la différence entre les catégories sociales est peut-être particulièrement visible dans la consommation de fruits et légumes, Pascal Hébel.
Alors, c'est vraiment des distinctions qui se font, oui, sur les produits qui ont une bonne image, en fait. Hein. Il y a une différence culturelle qui se fait notamment en fonction du capital culturel, c'est-à-dire du niveau de diplôme. C'est pas tant entre les niveaux de revenus. C'est important parce que quand on regarde le type d'aliment, hein, je prends pas en compte les caractéristiques de label qui font que c'est plus cher, mais si je regarde le contenu des assiettes, on a d'abord des différences hommes-femmes qui sont énormes, hein, notamment la viande, ensuite des différences d'âge qui sont prépondérantes, qui sont générationnelles, et puis en effet le niveau de diplôme qui va différencier ce qu'on consomme. Et ce qui influence beaucoup les changements, c'est finalement les courants. Et donc ce sont ceux qui sont très très diplômés qui vont en premier choisir par exemple de diminuer la consommation de viande, alors qu'avant évidemment c'était les catégories ouvrières qui rêvaient de consommer de la viande et qui enviaient ces catégories qui sont supérieures, qui en consommaient beaucoup plus. Aujourd'hui on voit que ceux qui en consomment le moins, ce sont en effet les plus diplômés qui le font par choix. Sans doute par distinction, ça c'est un des sujets qui fait débat aujourd'hui, pour montrer qu'ils sont pas comme les autres et que finalement ils vont dans le bon sens et vont à la fois aller dans le sens de l'écologie et éviter des cancers sur la viande rouge. Et sur les fruits et légumes, on trouve exactement la même chose. Ceux qui en consomment le plus sont ceux qui ont le mieux intégré les messages qui vous disent depuis 20 ans « consommez ces produits-là ». pour vous préserver des cancers. Et donc, on a ces effets qui sont forts en termes de capital culturel.
Donc, ne plus consommer de viande, ce serait une manière de se distinguer. Et en même temps, cette idée de consommer mieux semble se diffuser. Est-ce que ce mouvement qui s'enclenche est amené à s'élargir, Pascal Hébel ?
Alors, c'est un petit peu la question qui est posée quand on parle de distinction. Jean-Pierre Poulin le disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une catégorie qui est un petit peu en haut de la société, qui se retrouve en effet très très parisienne, dans les très grandes villes, parmi les catégories qui ont le pouvoir politique et qui vont faire parler d'elles dans les réseaux sociaux, on n'écoute les médias que les catégories très diplômées, donc il y a vraiment un effet quand même groupe. On peut supposer qu'en effet, ils ont des comportements spécifiques et ils font tout pour que les autres les copient pas. C'est un petit peu ce qui se passe sur le bio. Hein. Le bio, il y a cette idée qu'on pourrait ne faire du bio que dans des petites fermes et qu'il n'y a que celui-là qui est bien et que celui qui vient d'ailleurs, il n'est pas bon.
Oui, parce qu'il y a la concurrence du bio développé par la grande distribution.
Voilà. Et donc c'est réservé à une élite et donc on va dans des circuits de distribution très spécialisés qui ne sont pas les mêmes que les autres. Et donc là, ça limiterait en fait la diffusion et peut-être qu'on ne voudrait pas que les autres vous copient. Mais souvent, et on le voit par exemple sur la consommation de viande, on le voit aujourd'hui, c'est que les catégories peuvent essayer de suivre. Et donc c'est le cas, les ouvriers aujourd'hui consomment moins de viande, ont diminué aussi leur consommation de viande. Donc c'est copié, c'est des fois sur des régimes très stricts, hein, comme végétarien, vegan, ça pose des soucis, parce que ces catégories-là vont s'exclure, elles font partie de catégories dans lesquelles on ne fait pas du tout ces évictions. Et donc elles s'excluent de leur environnement social parce qu'elles veulent faire comme les autres. Quoi. Donc y a sur le terrain des choses qui sont plus complexes. Il faut simplement dire quand même les choses, c'est qu'en effet, c'est qu'une moitié de la population et qu'on continue d'avoir, et on le voit sur des catégories de produits qui fonctionnent très très bien, toute une autre moitié de la population qui continue de vouloir du goût, de vouloir des produits du terroir, des produits traditionnels, des produits qui apportent du plaisir et qui sont beaucoup moins dans ça, mais on n'en parle pas beaucoup de cette catégorie de population. Hein. C'est un petit peu le résultat des élections d'hier, il y a quand même une population coupée en deux.
Mais alors justement, cette question de l'environnement qui est de plus en plus présente peut-être au moment de faire ses courses, vous parliez des personnes les plus diplômées qui étaient celles qui consommaient le plus de bio et en même temps, il y a un certain nombre d'études qui montrent aussi que ce sont les personnes qui sont le plus préoccupées par l'environnement qui ont aussi l'empreinte écologique la plus forte. Pascal Hébel, c'est ce qu'on constate. Alors c'est peut-être plus lié à des modes de déplacement, par exemple le fait de prendre l'avion parmi d'autres.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a montré, qu'en effet il y a très peu de gens qui prennent l'avion en dehors de voyages professionnels. Il y a qu'un tiers des Français qui prennent l'avion pour leur loisir. Et on a l'impression, et c'est ceux-là, hein, c'est ceux qui prennent le plus l'avion, qui vont le plus faire des petits gestes. C'est comme s'ils essayaient de se dédouaner. Ils savent très bien que ça a un impact très fort. Et donc, ce sont ceux qui prennent le plus l'avion dans l'année, qui vont consommer le plus de bio et qui vont être ceux qui vont consommer le moins de viande ou qui vont acheter du vrac ou qui vont acheter des produits de saison ou des produits locaux. Donc, il y a un petit peu cette ambiguïté qui est finalement pas si simple que ça à démêler. Et puis, si on essaye de se dire, bon, il faudrait quand même arriver à avoir tous des comportements qui préservent la planète. Mais toujours est-il que, c'est un peu ce qui s'est passé sur le carburant. C'est-à-dire que on peut pas imposer un modèle qui va très bien à une partie de la population qui a pas de problème de tous les jours, qui arrive à boucler ses fins de mois et qui peut se poser ces questions-là. En se disant, tiens, je vais acheter plutôt du bio pour être en meilleure santé ou pour préserver la planète, et imposer ce modèle-là à des gens qui, de toute façon, n'ont pas d'impact. Parce qu'en effet, moins on consomme, hein, moins on achète, et moins on a d'impact sur la planète.
Si je vous suis bien, le bio, c'est un peu la taxe carbone de l'alimentation. Il faut pouvoir se le permettre, Camille Arel, et c'est peut-être une manière de se donner bonne conscience, alors que par ailleurs, on peut avoir une empreinte écologique très importante.
Après, sur les consommateurs de produits bio, il y a en effet différents profils. Je rejoins ce que disait Pascal Hébel sur certaines personnes qui disent « Ok, je vais consommer du bio pour me dédouaner pour X ou Y autre action que je mène au quotidien. » Après, moi, je me suis quand même rendu compte que depuis ces dernières années, pour des vrais consommateurs bio qui sont avec des idéaux relatifs au bio, il y a une prise de conscience globale, c'est pas que le produit. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus, c'est que les nouvelles générations, les millennials, donc les les ados des années 2000, on va dire. Aujourd'hui, pour eux, c'est plus qu'un produit. C'est complètement une philosophie de vie. C'est l'enjeu environnemental, il est essentiel dans le quotidien. Après, évidemment, il y a toujours des ambivalences dans les comportements de chacun. Mais pour moi, voilà, il y a différents consommateurs de bio. Il y a le consommateur qui va se dire, OK, j'achète un produit. Alors, du coup, les chiffres de l'agence bio disaient, je crois qu'il y a quasiment 90% des consommateurs qui consomment au moins un produit bio par an. Moi, mais bon, ça, dans ce cas-là, c'est en effet la majorité de la population. Après, le vrai bio qui est capable d'aller faire ses courses chez son producteur pour diminuer son émission de CO2, qui va consommer en fonction des saisons, etc., ça reste des typologies de consommateurs très, très niche, quoi.
Et effectivement, le bio se trouve à la croisée du business et d'un modèle de société. On va en parler dans un instant. You know I love that organic cooking, I always ask for more. And they call me Mr. Natural, on down to the health food store. I only eat good sea salt, white sugar don't touch my lips. And my friends is always begging me to take them on macrobiotic trips. Yes they are. All but night I take out my strong box that I keep under lock and key. And I take it off to my closet where nobody else can see. I open that door so slowly, take a peek up north and south. Then I pull out a Hostess Twinkie and I pop it in my mouth. Yeah, in the daytime I'm Mr. Natural, just as healthy as I can be. But at night I'm a junk food junkie, good Lord have pity on me. Well, at lunchtime, you can always find me at the Whole Earth Vitamin Bar, just sucking on my plain white yogurt from a hand-thrown pottery jar. And sipping a little hand-pressed cider with a carrot stick for dessert, and wiping my face in a natural way on the sleeve of my peasant shirt. Oh, yeah. Ah, but when that clock strikes midnight and I'm all by myself, I work at combination on my secret hideaway shelf. And I pull out some Fritos corn chips, Dr. Pepper, and an old moon pie. Then I sit back in glorious expectation of a genuine junk food high. Then I take some of my Mr. Patrick. Oh yeah, in the daytime I'm Mr. Natural, just as healthy as I can be. Oh, but at night I'm a junk food junkie. Good Lord, have pity on me. All right. Vous écoutez Junk Food Junkie de Larry Gross sur France Culture. Entendez-vous l'écho se poursuit en compagnie de Pascal Hébel et de Camille Harel. Et nous continuons notre tour d'horizon des nouveaux modes de consommation.
Le repas est quelque chose de fondamental dans le fonctionnement de la vie en société. Dans une vie, on partage à peu près 90 000 repas dans sa vie. Donc c'est 90 000 instants sociaux très importants pour construire des hiérarchies, construire des sentiments d'appartenance collective. Le repas comme un moyen d'interaction sociale, de construction en fait de la société. Donc cette dimension sociale, elle est fondamentale pour la socio-anthropologie de l'alimentation. Et puis enfin, il y a la dimension, on pourrait dire, identitaire. On devient ce qu'on mange, mais aussi on appartient à un groupe par ce qu'on mange. Et donc cette dimension culturelle de l'alimentation, elle est bien évidemment aussi au cœur du questionnement de la socio-anthropologie.
Nicolas Brica, socio-économiste CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Alors ce que nous dit ici Nicolas Brica, c'est que le repas est un lieu de construction de l'appartenance collective et en même temps, les modes de vie ont considérablement évolué, Pascal Hébel, et ça a eu un impact également sur notre alimentation.
Oui, tout à fait. Notamment, on a des allongements de temps de travail domicile. On a surtout un temps passé devant des écrans qui est immense. Et donc, on passe moins de temps qu'avant à manger sur tout le processus alimentaire. C'est à la fois dans faire ses courses, on prend de moins en moins de temps. La cuisine, même si c'est un petit peu stabilisé parce que c'est revenu, on passe quand même de moins en moins de temps à cuisiner. Et les repas sont plus courts qu'avant, notamment le repas du déjeuner. Donc, on va pas forcément prendre moins de repas à plusieurs, notamment sur le dîner. Mais par contre, on va raccourcir et le déjeuner est de plus en plus souvent 25% des déjeuners sont pris seuls. Donc il y a quand même de moins en moins de repas partagés.
Et c'est ce qui explique la hausse de la consommation de produits ultra transformés. Et cela malgré toutes les études qui estiment, Camille Harel, que ces produits ultra transformés augmentent notamment les risques de cancer ou d'obésité.
Alors les produits ultra transformés, on peut les assimiler du coup à tout ce qui est produits cuisinés, type produits surgelés, etc. Bon, alors c'est quand même une catégorie malheureusement qui a subi un petit peu la suite de la crise de la viande de cheval, du coup qui a été quand même pas mal en berne au niveau des achats. Aujourd'hui, oui, il y a toujours cette consommation de produits transformés, mais elle tend quand même un peu à se réduire pour toutes les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui.
Essentiellement l'inquiétude autour de la santé.
Pas forcément que l'inquiétude autour de la santé, le fait d'avoir un plat cuisiné, de se dire ok, dedans j'ai peut-être 15 ingrédients, dont des E, je ne sais combien, des N, etc., que je ne comprends pas. Aujourd'hui, le consommateur, il a besoin de comprendre ce qu'il y a dans son plat cuisiné, dans le produit qu'il consomme. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, il y a vraiment un effort qui est demandé, qui est fait par l'industrie, de réduire au maximum les listes d'ingrédients qui composent des produits, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il regarde l'étiquette de son produit, il veut savoir ce qu'il va ingérer. Et donc, en effet, c'est santé, traçabilité, qualité, confiance, tout ça, c'est mélangé, mais c'est essentiel.
Vous diriez qu'il y a un paradoxe, Pascal Hébel, entre une recherche de produits sains pour l'organisme, comme on l'a dit au début de cette émission, et la consommation croissante de produits ultra transformés?
Oui, alors ce qu'on observe, c'est par exemple, on a travaillé sur l'Île-de-France et c'était pas vrai il y a 10 ans. C'est que il y a 10 ans, en 2007, les Franciliens étaient ceux qui mangeaient le plus de fruits, le plus de légumes, donc de produits qui ont une très bonne image santé. Et là, on refait la même étude en 2016 et on se rend compte que c'est dans cette région-là que l'on mange le plus de pizza et le plus de sandwichs. Donc il y a ce paradoxe en effet où on aimerait faire la cuisine, où on aimerait ne manger que des produits bruts, hein, ce qu'on appelle du produit brut. C'est de la viande brute, des légumes, des fruits. Et finalement, on se retrouve pris dans des modes de vie où on n'est pas chez soi le midi quand on est actif, puisque les trajets sont trop longs. Et puis, il y a d'autres temps qui nous empêchent de faire soi-même la cuisine. Et c'est notamment parce qu'il y a des vidéos, il y a des jeux, etc. Et donc, on va... Et ce n'est pas tant les plats cuisinés au sens où on l'entend qui vont croître, mais c'est cette façon de manger où on va pouvoir le faire soi-même. Hein. Je peux chez moi manger un sandwich, hein, notamment un burger, parce que je n'ai pas besoin d'assiette, je n'ai pas besoin de faire de vaisselle, et ça va plus vite. Et la pizza, elle explose. C'est-à-dire qu'on est devenu le premier consommateur de pizza. Et c'est ça qui se développe en surgelé. On le fait venir chez soi. Et évidemment, la restauration hors foyer.
On le fait venir chez soi. Je rebondis là-dessus. Pascal Hébel, effectivement, la consommation croissante de plats préparés va de pair avec l'émergence de start-up comme Deliveroo, Frishti ou encore Uber Eats. Écoutons les témoignages de restaurateurs qui ont fait appel à ces sociétés de livraison.
Je gagnais pas d'argent, j'en perdais pas, donc ça servait à rien en fait. On fait beaucoup de burgers, donc il y a le buns, il y a la viande qu'on traite nous-mêmes sur place. Voilà, je trouve que c'est un produit où 30% de commission, c'est énorme. Pour que Deliveroo nous mette en avant sur leur site, il faut qu'on travaille exclusivement avec eux. Donc je leur ai dit que je bossais plus qu'avec eux, mais ils ont jamais mis mon restaurant en avant.
Chez Jules et Chim, on travaille toujours avec Deliveroo.
Là, j'ai 2 bimeufs à la crevette à la taille. Pour un total de 24 euros, sur place, ils en auraient eu pour 18,50. On rajoute ces 30% pour ne pas perdre de l'argent, parce que nous, déjà, on vend des bibimbap à 9,50. C'est quand même pas très cher, un ticket restaurant. Quand on fait appel à un service sur Internet, on est prêt à payer plus cher.
Voilà, on a assisté ces dernières années à un développement important des sociétés de livraison comme Deliveroo. Et pourtant, ce qu'on constate, Pascal Hébel, c'est que le modèle économique de ces sociétés peine à être rentable, à la fois pour les restaurateurs et pour ces sociétés elles-mêmes.
Oui, c'est pas facile de faire payer du service en France. Hein. On n'est pas une société qui accepte facilement de payer la logistique. Hein. On l'a vu sur le e-commerce. Et donc, on voit que ce besoin est très fort. Hein. Le besoin d'avoir des choses toutes prêtes pour gagner du temps, pour éviter de faire des choses qui ont été considérées comme une corvée. Hein. Il faut juste rappeler que la cuisine, pour la génération mai 68, c'était les choses qu'on n'a plus envie de faire et on s'en est débarrassé, on a perdu le savoir-faire culinaire. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir de récupération, de partage des tâches par les hommes. Hein. Les hommes sont encore, et même la très très jeune génération fait de moins en moins la cuisine par rapport à une génération rémunération juste supérieure et encore moins les courses.
Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il y a une telle demande que ces sociétés s'acharnent alors même qu'elles peinent à être rentables.
Oui, c'est des sociétés qui viennent, qui sont pas françaises, hein, qui ont essayé d'implanter un modèle qui marche bien dans, par exemple, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Ça fonctionnera parce que finalement il y a cette envie d'avoir des choses plus exotiques chez soi. On aime bien quand même diversifier et on est quand même moins capable qu'avant de faire soi-même les choses parce qu'on sait plus le faire. On a beau avoir tout un tas d'applications, tout un tas de recettes de cuisine qui pourraient se faire. En fait, le savoir-faire culinaire, c'est quelque chose qui se transmet. On ne peut pas, si on l'a pas vu faire, s'inventer cuisinier, s'inventer de savoir juste comment associer des choses en fait, et même aller faire les courses, si on n'a pas eu ça dans son enfance, on sait pas bien le faire.
Alors il y a quand même le boom des livres de cuisine, des émissions de cuisine. Vous pensez pas que ça a un impact ?
Alors il y a une génération, en effet, de jeunes femmes qui a voulu reprendre la main parce qu'elle était inquiète, en fait. Hein. C'était les catégories les plus sociales plus hautes.
Et beaucoup d'hommes également.
De trentenaires, oui, et d'hommes à ce moment-là qui, c'était il y a une dizaine d'années, qui ont voulu reprendre la main parce que justement, c'était la génération des enfants de la génération mai 68. Et ils ont repris des cours de cuisine, donc ça prend du temps, mais on sent bien que là, comme l'économie va un peu mieux, ça baisse, hein, en fait. Hein. Il y a certains types de choses comme la pâtisserie qui continue de croître, mais on a envie de manger des produits frais, des produits qui sont sains, et donc on pense qu'en allant chercher ces paniers qui viennent d'ailleurs, il y a même des offres de paniers où on vous propose tous les ingrédients pour le faire soi-même, ça permet de concilier plaisir et produits frais.
Pour entrer un petit peu dans le détail des coûts de ces sociétés de livraison, ces sociétés estiment que la course leur coûterait 6 euros, alors qu'elles la facturent 2,50 euros. Et en même temps, on sait qu'elles sont régulièrement épinglées pour les conditions de travail qu'elles imposent aux livreurs. Camille Harel, peut-être sur le modèle économique des sociétés de livraison, elles espèrent finalement être chacune le seul qui restera à la fin pour pouvoir continuer et devenir véritablement rentable.
Après, c'est vrai qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu l'émergence de plusieurs types via les applications, etc. Je pense que chacun propose aussi un système qui est particulier. Je pense également, moi, que c'est un petit peu quand même des modes de vie, des modes de culture qui s'apparentent aux grandes agglomérations. D'ailleurs, on le voit, voilà, à Paris, c'est sûr que toute la journée, on voit des livreurs avec leur vélo, etc. Pareil pour les autres capitales européennes. Après, oui, c'est sûr que c'est un business model qui est compliqué parce que, en effet, on fait appel à un service, mais en même temps, on n'est pas forcément prêt à mettre le prix qui va faire qu'on va se faire livrer chez nous. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, moi, je pense que voilà, c'est également encore des services qui touchent des personnes qui ont des pouvoirs d'achat relativement conséquents, parce que ça a un coût, ça. C'est un modèle aussi social qui soit avec des familles monoparentales, praticité, pas le temps de faire la cuisine, etc. Ou alors un mode de vie convivialité, tous ces modes de livraison fonctionnent très bien, du moment où il y a des grands événements sportifs, etc. Donc voilà, je pense que ça touche quand même essentiellement les grandes agglomérations. Et en effet, il y a eu beaucoup d'applications, beaucoup de services qui se sont lancés en même temps. Bah forcément, va forcément y avoir des gens qui vont rester sur le bord du chemin, oui.
Alors on a parlé de ces nouveaux modes de consommation, mais alors comment l'industrie agroalimentaire se transforme-t-elle face à ces métamorphoses ? L'apparition de nouveaux régimes alimentaires a permis l'émergence d'un business du bio qui est très lucratif. Aujourd'hui, le bio se démocratise dans les grandes surfaces, même s'il reste encore 20% plus cher environ, Pascal Hébel.
On dit même 40%, mais
ah oui, 40%.
C'est ça pèse assez cher la différence, mais simplement comme ceux qui adoptent le bio vont adopter des modes de consommation, ils vont manger moins de viande par exemple, au global ça leur fait pas un budget trop énorme, et en effet ça génère beaucoup de marge pour tous ceux qui se mettent sur ce type d'agriculture, hein. Dans le vin par exemple, on sait très bien que ça s'exporte, donc c'est très bien pour toute l'agriculture qui accepte de s'y mettre. Simplement sur d'autres champ, on voit bien que l'offre, hein, les industriels se sont enfourés sur les programmes, enfin sur l'alimentation veggie, hein, vegan. Donc, on va proposer des nouvelles recettes avec des aliments, enfin des recettes où il n'y a pas du tout de viande, et ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire que même le sans gluten va intéresser tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à manger un plat végétarien même si on n'est pas soi-même végétarien. Donc, ça crée des nouveaux drôlettes de croissance. Simplement, il y a quand même un courant un peu anti-grandes entreprises qui arrive et qui repart en France. Hein. On voit que c'est un peu des modes qui se diffusent. Et donc, c'est vrai que ça met en cause quand même les modèles des très grandes multinationales qui ont des difficultés en France, et notamment parce qu'il y a aussi des difficultés de répartition de valeur.
Oui, parce qu'il ne faudrait pas confondre végétarien et bon pour la santé, Camille Harel. Il y a énormément de produits végétariens ou végétaliens qui sont des produits ultra transformés en réalité.
Tout à fait, oui. Les plats cuisinés végétariens sont des plats cuisinés au même titre que n'importe quel autre produit. Donc évidemment, en plus, faut quand même pas oublier quelque chose, c'est qu'un végétarien, il ne consomme plus de viande. Le corps humain a quand même besoin de protéines animales. On a besoin de force, on a besoin de voilà. Donc dans ces plats cuisinés là, il y a forcément des ingrédients qui permettent aussi d'apporter cette nécessité en protéines et en tout cas pour tenir la journée. Donc oui, ce sont des produits, des plats cuisinés. Donc ça, oui, ce sont des produits transformés à base de céréales, de légumineuses, etc. Mais oui, ça reste des produits transformés.
Et c'est ce qui explique le développement des applications comme l'application Yuka, qui permet de savoir exactement ce qu'il y a dans le produit que l'on veut acheter.
Alors Yuka, oui, c'est plus dans ce cas-là une application pour déterminer le profil nutritionnel de son produit, que ce soit du végétarien, du vegan, du bio ou du conventionnel. C'est plus, voilà, on prend un produit, on a l'application sur son téléphone, on scanne le code barre et en fait l'application génère une note globale en fonction de certains items et estime si le produit est bon, médiocre ou mauvais, et après voilà, c'est le consommateur qui fait son choix. Mais oui, c'est toujours ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est cette nécessité d'avoir des infos sur le produit, de se dire ok, entre ce produit là et celui qui est à côté B, lequel est le meilleur pour moi? Hop, je sors mon application, j'ai mon info tout de suite et mon choix il est fait pour moi.
Un chiffre peut-être, les ventes de produits végétariens et vegan ont généré l'an dernier un chiffre d'affaires en hausse de 24% dans les grandes et moyennes surfaces françaises. C'est une étude de l'Institut Xerfi qui le dit. Et toute la question, Pascal Ebel, c'est est-ce qu'il s'agit d'un marché durable ou d'un effet de mode? Est-ce que ça va rester un marché de niche? Est-ce que ça va s'élargir?
Alors, autant sur le gluten, on sent bien qu'il y a moins de... Sur les réseaux sociaux, on en parle moins et que c'est moins quelque chose que les gens vont suivre. Autant sur végétarien, vegan, c'est forcément quelque chose qui va être porté à durer. Tout simplement parce que manger moins de viande, c'est à la fois soutenu par le fait qu'il y ait plus de... Enfin, ça préserve pour la planète. Ça a un impact sur le bien-être animal. Hein. Ça, c'est une question qui est montante et ça va pas disparaître. Et puis, il y a les raisons de santé. Donc, forcément, les gens vont en manger de moins en moins. On sait qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais quand quelqu'un vieillit, quand les enfants partent du foyer, on mange moins de viande parce que c'est des produits plus conviviaux. Donc quand on est seul, on va en consommer moins. Donc ça peut être des réponses, justement, ces produits pour consommer plus de protéines, parce qu'en vieillissant, on voit qu'on en a de plus en plus besoin pour pas perdre les muscles et les seniors n'en consomment pas assez. Donc c'est des offres qui peuvent répondre à d'autres choses, en fait, et qui continueront d'avoir de la place, et on mange de plus en plus naturellement d'ailleurs des produits naturels, des légumineuses, hein, des lentilles, on n'en mangeait plus parce que c'était considéré comme les produits pour pauvres, et on voit que c'est redevenu un produit consommé.
Et les grandes entreprises s'emparent effectivement de ce marché. Il y a Nestlé qui s'apprête à commercialiser son premier hamburger végétal, il y a aussi le groupe vegan américain White Wave qui a été racheté par Danone. Ça intéresse de plus en plus des très grandes entreprises, Pascal Ebel ?
Oui, tout à fait. Il faut qu'ils aillent sur les marchés en croissance. Hein. Comme globalement, en France, on dépense quand même moins en alimentation, tout simplement parce qu'il y a une population qui croît moins vite qu'avant. La population est plutôt, il y a moins de natalité, etc. Donc, il faut aller sur les axes où il y a de la croissance. Il faut aller sur l'innovation pour gagner de l'argent. Et donc, c'est forcément dans ces axes-là qu'il y aura de la marge à faire.
Alors désormais, il y a trois repères de qualité des produits alimentaires. L'appellation d'origine contrôlée, l'AOC, qui est liée au terroir. Le label rouge, qui garantit la qualité supérieure du produit. Et l'agriculture biologique, qui garantit un mode de production respectueux de l'environnement. Donc ces labels sont officiels. Donc les cahiers des charges qui définissent ces labels sont validés par le ministère. Ensuite, il y a un contrôle, deux niveaux de contrôle. Donc avant, le producteur doit prouver qu'il est capable de faire ses labels. Et ensuite, il est contrôlé tous les ans, producteurs et fabricants, pour vérifier que la qualité du produit est bien là.
Voilà, on entendait Sylvie Guillot, responsable filière et qualité à la Chambre d'agriculture. Pascal Hébel, quel rôle les labels jouent-ils dans le choix des consommateurs? Est-ce que ce sont les labels les plus connus qui font le plus acheter?
Alors, c'est vraiment les plus anciens labels qui font le plus acheter. Donc, c'est le label rouge qui a été le premier à être créé. C'est un label qui n'existe qu'en France, qui garantit de la qualité, qui garantit du goût. Donc, c'est ce qui nous caractérise en termes de modèle traditionnel. Et puis, le deuxième qui est le plus connu, c'est le bio. Donc, c'est des labels qui, évidemment, apportent des différences. Le label de qualité type label rouge, on voit bien qu'il est en croissance quand on est inquiet. Donc, on l'a vu au moment des années 2000. On l'a revu autour de 2013 au niveau de la crise de la fraude de la viande de cheval. Mais là, en ce moment, il se porte un peu moins bien parce qu'évidemment, le label bio est à le vent en poupe et fait de la croissance.
Et alors, on a le sentiment que le label bio est de plus en plus imposé sur nos produits de consommation courante. Il y a sans arrêt de nouvelles marques qui sortent des produits bio. Et la question qu'on peut se poser, Camille Harel, c'est la question du contrôle de ces produits. Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'ils respectent tous vraiment les exigences du bio?
Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule entreprise, même une multinationale, qui ne fait pas de bio. Hein. Clairement, bon, bah, y a de l'opportunité, l'alimentaire est en berne depuis quelques temps, et donc tout ce qui peut être un relais de croissance et amener de la valeur, forcément tout le monde s'engouffre dedans. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une offre surdéveloppée. Après, concernant le bio, c'est pareil, c'est un label qui est extrêmement contrôlé. Aujourd'hui, il y a une harmonisation européenne. Le cahier des charges européen a été revu pour une nouvelle application en 2020, donc du coup, pour que tous les États membres soient sur le même principe. Le bio, faut quand même savoir que c'est des analyses qui sont menées avant, pendant, après, par des cabinets d'audit extérieurs qui sont à la charge en général du producteur ou du transformateur. Donc clairement, ce sont des produits qui sont vérifiés, qui sont contrôlés.
Parce qu'il peut y avoir une confusion en même temps entre dans le bio, on s'attend effectivement à n'avoir ni engrais ni pesticides, mais on peut, et on commençait à en parler tout à l'heure, imaginer aussi que ce sont des produits qui refusent la souffrance animale, qui luttent contre la souffrance animale, où on peut être en droit d'exiger des normes sociales plus strictes, par exemple. Vous diriez qu'il y a une confusion autour du bio, Pascal Hébel, et en même temps des contrôles qui sont importants?
Alors, ce qui vient dans la société, c'est qu'il y a quand même une petite méfiance par rapport au bio qui vient de l'étranger. Parce que ce qu'on disait sur la norme européenne, c'est pour les produits qui sont produits en Europe. Par contre, quand il y a un label bio qui vient de l'étranger, il n'y a pas forcément sur le lieu d'origine tous les mêmes contrôles. Donc, il y a un peu ce débat-là. Est-ce que tout le monde ne fait pas attention quand c'est vendu dans des grandes surfaces? On n'a pas forcément, on ne va pas tout regarder comme critère. Je pense pas qu'il y ait forcément une confusion, qu'on associe bio et équitable. Hein, c'est pas forcément là-dessus qu'on attend le producteur bio. Par contre, on s'attend à ce que le produit bio, il n'y ait pas de résidus en fait, hein, de pesticides, et c'est là que c'est pas forcément garanti. Donc, il peut y avoir des incidents, et il y a eu des incidents en fait dont on parle peu de crise sanitaire sur des produits bio. Et c'est là qu'il y aura peut-être un jour des choses qui feront que il y a une défiance qui pourrait se mettre sur ces produits-là, et on passerait à un autre modèle.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être, Camille Harel, sur ces nouveaux modes de consommation. Selon vous, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines années?
Je pense qu'en effet, on a vu sur la dizaine de dernières années qu'il y a quand même une évolution profonde des attentes des consommateurs, de prise de conscience, de santé, d'environnement, etc. Ça, c'est indéniable. On a mis en avant de nombreux régimes alimentaires, que ce soit le sans, que ce soit le vegan, le végétarien, etc. Et le bio. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont rester, je pense, des produits de niche liés au prix du produit. Et puis voilà, il y a des modes, hein, comme partout. Il y a des modes vestimentaires, il y a des modes alimentaires. Donc ça, c'est clair. Après, aujourd'hui, je pense que le bio, par exemple, il y a plusieurs personnes qui disent qu'aujourd'hui, c'est plus un marché de niche à quasiment 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En effet, c'est plus de la niche. Après, est-ce que ça sera le quotidien des Français, j'en doute aussi. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une vraie métamorphose de l'alimentation.
Pascal Hébel, sur l'avenir de nos assiettes.
Alors, l'avenir de nos assiettes, c'est qu'on va vouloir de plus en plus des produits où on connaît l'origine. On aura sans doute quand même une révolution dans les grandes entreprises qui est de prendre en compte de plus en plus les souhaits de la société, d'aller dans le sens de l'intérêt général. Et on sent que ce qu'on appelle la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise est de plus en plus forte. C'est parce que c'est le sujet alimentaire, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe tous. C'est dans ce secteur-là qu'il faudra aller faire le plus d'efforts pour réduire les gaz à effet de serre, pour réduire, et on voit bien que c'est un axe quand même qui a été pris par tous les industriels, c'est diminuer les intrants, diminuer les additifs, diminuer les colorants, diminuer les conservateurs. On fait des recettes de plus en plus simples avec moins d'ingrédients.
Et c'est l'heure pour nous de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de la manière dont la France traite la publicité pour la malbouffe à la télévision.
Oui, une enquête menée par Mediapart et l'association de consommateurs UFC Que Choisir nous explique que la charte de bonne conduite qui lie les chaînes et les annonceurs sous la houlette du CSA n'a pas été reconduite comme prévu à la fin de l'année dernière. Méconnue du grand public, cette charte vise en effet à promouvoir une alimentation et une activité physique favorable à la santé. Elle réunit ainsi les acteurs de l'audiovisuel et de l'agroalimentaire qui s'engagent à observer un certain nombre de bonnes pratiques afin de favoriser une meilleure alimentation et une plus grande activité sportive. Mais voilà que cette année, la mécanique si bien huilée semble s'être grippée lorsque les autorités ont refusé de valider la nouvelle charte.
Il faut dire que les autorités de santé publique n'ont pas réussi à imposer aux signataires de s'engager à réduire l'exposition des enfants aux publicités pour des aliments mauvais pour la santé.
Exactement, la charte a fonctionné jusqu'à présent sur le principe du pollueur-payeur. Les industriels compensant les publicités déversées sur nos écrans à longueur de journée par le financement de programmes favorables à la santé. Mais pas question d'aller plus loin. Par une stratégie bien connue, l'industrie a réussi à se défausser de ses responsabilités en faisant retomber sur le consommateur l'impératif de changer. En clair, on encourage les consommateurs à se bouger et à mieux cuisiner, mais rien n'est fait pour lutter contre la vente des produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Les autorités sanitaires qui poussaient pour une stratégie plus offensive de lutte contre la malbouffe ont donc réagi en retoquant la charte et en opposant un veto aux chaînes qui espéraient passer en force, soutenu par l'ANIA, le puissant lobby des industries alimentaires.
La France a pourtant été épinglée à plusieurs reprises par l'OMS, qui dénonce son approche purement volontaire de la lutte contre la malbouffe dans les médias.
Absolument. Dans un rapport publié en octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé déplore le fait que la France n'ait pas de dispositif légalement contraignant pour empêcher la commercialisation et la promotion d'aliments défavorables à la santé des enfants. L'organisation de l'ONU a ainsi expliqué que si l'objectif premier de la charte était bien de promouvoir une alimentation saine, elle n'appelait pourtant pas explicitement à des restrictions quant à la commercialisation de produits à forte teneur en sucre ou en graisse. Aussi, si elle salue la loi de 2018 qui a supprimé la publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique, l'OMS rappelle que le cadre réglementaire trop flou a laissé le loisir aux annonceurs ciblant les enfants de se repositionner sur d'autres cases horaires et notamment à l'heure du prime time.
Or, les travaux scientifiques ont bien montré qu'il y avait un lien entre exposition publicitaire et indice de masse corporelle des enfants.
Exactement, grâce aux prodige du marketing, les enfants qui regardent le plus de publicité sont également ceux qui auront le plus envie d'en consommer. Des études montrent même que les enfants obèses ou en surpoids augmentent leur prise alimentaire de plus de 100% après visionnage d'une publicité alimentaire à la maison. L'intérêt des professionnels du secteur est donc évident. Renoncer à la publicité aurait été renoncer à une véritable manne financière, celle des enfants tirant leurs parents par la manche au supermarché afin de leur faire acheter tel ou tel produit sucré. En expliquant qu'ils étaient opposés à toute restriction de leur liberté d'annoncer, les industriels se sont donc battus pour conserver la charte alimentaire du CSA en l'état. Charte qui précise que les partenaires sont tout à fait disposés à s'engager pour 5 années supplémentaires, à condition que la loi, elle, reste inchangée. Une manière de s'assurer que jamais, au grand jamais, les industriels ne seront forcés de changer.
Today I used to have one too. Maybe you'll come and have a look. I really love
On se quitte avec Bohemian Like You des Dandy Warhols. Merci beaucoup Pascal Hébel et Camille Harel de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, nous nous penchons sur le modèle économique de la grande distribution après l'annonce par le groupe Auchan de la fermeture de 21 magasins en France. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.